La lecture introductive, et qui correspondra à une part importante de notre étude, c'est celle de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les 15 premiers versets. Ecclésiaste, en hébreu Kohelet, chapitre 3, pour tout un moment. Le mot, je n'en ai pas parlé hier en fait, le mot qui est ici employé est emprunté, semble-t-il, à l'araméen, et l'idée clé, c'est d'un temps qui est fixé, désigné. Donc je traduis moment. Pour tout un moment et un temps pour tout projet sous les cieux. Le mot, je traduis projet, c'est un des sens qui sont assez fréquents de ce terme, donc il n'y a pas de problème à traduire de cette façon, peut signifier aussi le plaisir, le bon plaisir, donc des traductions peuvent varier un petit peu à cet égard dans ce verset. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour faire brèche et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour le deuil et un temps pour la danse. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui fait, sous-entendu retire-t-il, dans tout ce pourquoi il dépense sa peine, je paraphrase un peu, ce pourquoi il peine. J'ai vu l'occupation, la tâche, la charge que Dieu donne au fils d'Adam, au fils de l'humanité, pour les occuper, éventuellement pour les y astreindre. Le tout, il l'a fait beau en son temps. Et aussi, le olam, alors la traduction la plus habituelle de ce terme dans l'Ancien Testament, c'est l'éternité. Et aussi, le olam, il a mis dans leur cœur, sans que l'homme ou l'humanité, Adam, puissent trouver toute l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Je sais ou j'ai reconnu qu'il n'y a rien de bien parmi eux sinon de se réjouir et de faire le bien pendant sa vie. Alors faire le bien peut signifier goûter le bien ou le produire, hein. C'est littéralement c'est faire le bien ou le bon. Et aussi, tout homme qui mange et boit et voit le bien dans tout toute sa peine sous Dieu, elle littéralement. Donc ça semble signifier que l'homme qui mange et boit se trouve là sous l'autorité de Dieu,
n'agit que sous sa maîtrise. Mais littéralement, c'est simplement sous...
Excusez-moi. Je lisais mal, je lisais tachat au lieu de matat.
C'est don de Dieu. Don de Dieu.
Voilà. Donc, aussi, tout homme qui mange et boit et qui voit le bien dans sa peine, don de Dieu cela. C'est un don de Dieu. J'ai connu ou reconnu ou je sais que tout ce que Dieu fait, cela sera
pour l'éternité.
Le Olam. Au verset, donc première partie du verset 14. Il n'y a rien à y ajouter et il n'y a rien à en retrancher. Et Dieu agit ou Dieu fait pour que
qu'on ait de la crainte en sa présence.
Ce qui a été, cela est déjà ou a déjà été ou l'a été il y a longtemps. C'est une locution de temps qui semble suggérer le déjà. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu cherche
ce qui est poursuivi, littéralement. Enfin, disons, d'après le sens le plus habituel de ce terme. Alors, les commentateurs ont vraiment beaucoup de peine avec ce dernier verset. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et avec le dernier mot, est-ce que Dieu cherche, se met en quête du persécuté? C'est le mot utilisé pour persécuter. C'est un participe passif. Ou est-ce que c'est ce qui a disparu? Les choses qui se sont enfuies, hein, les choses disparues. Est-ce que cela veut dire que Dieu va chercher ce qu'on croit avoir oublié, qui paraît avoir complètement disparu? Dieu le fait reparaître à son jugement, c'est l'interprétation de certains. Ou bien est-ce que cela signifie que Dieu fait revenir ce qui s'est fait dans le passé, pour correspondre à la première ligne? Ce qui a été recommence, donc Dieu va le rechercher en quelque sorte, ce qui s'est enfui, pour ce qui s'est poursuivi par la marche du temps. Ou bien est-ce que ça signifie simplement ce qui file? Dieu se met en quête de ce qui file, c'est une interprétation de Eaton. Vous avez donc des interprétations assez diverses, parce que c'est relativement obscur. Voilà donc ce morceau qui, vous vous en rendez compte, est une vraie méditation sur le temps et l'éternité. Là, nous avons un passage où notre sujet est au centre des réflexions de l'auteur inspiré. Malheureusement, tout n'est pas très clair. Et il faut faire un effort d'interprétation assez considérable pour en tirer les leçons dogmatiques. Mais il va nous être utile, comme vous allez vous en rendre compte, comme vous pouvez déjà le deviner en lisant le canevas. Mais je commence par les remarques introductives que j'ai prévues. Le dilemme est ruineux. Je rappelle ce que signifie le mot dilemme, hein, de manière très stricte. C'est une forme d'argumentation qu'un dilemme qui montre que lorsque quelqu'un adopte une position donnée, aucun des choix qu'il peut faire, en particulier s'il y en a deux, ne peut le conduire à la réussite. Dans les deux cas, c'est ruineux pour lui. S'il dit A, ah, ça y est, c'est fichu. S'il dit B, c'est fichu eux-mêmes. C'est ça un dilemme. Alors à partir de là, on peut élargir légèrement le sens pour que le mot désigne une situation d'impasse, une situation où on se trouve en échec de quelque côté qu'on se tourne. Ça n'a pas le sens d'alternative, qui veut dire une possibilité de choix entre deux termes, et ça ne doit pas non plus avoir un sens trop trop large de situation critique simplement. Les anglo-saxons en particulier utilisent beaucoup de dilemmes avec ce sens très vague de situation critique, mais il vaut mieux éviter d'élargir à ce point-là. Donc le dilemme, ici, c'est le dilemme dans le traitement des données bibliques que nous avons passé en revue. Si on choisit la conception classique pour en rendre compte, on sacrifie une part considérable du témoignage, la pleine historicité du message, de la réalisation du salut, la transition qui est au cœur de l'émerveillement chrétien entre ce qui était avant et ce qui est après, maintenant que le Seigneur est intervenu, le fait que tout cela correspond à la réalisation d'un plan avec des étapes successives et un plan formé dès avant la fondation du monde, tout ça doit être révisé, semble-t-il, aplati, comprimé, Et ça paraît vraiment une perte gigantesque par rapport aux données bibliques. Donc, de ce côté-là, c'est ruineux. Mais si on va de l'autre côté, pour dire, alors, pour Dieu, il y a avant, il y a après, Dieu connaît la succession comme nous, cela semble ruineux aussi, car que reste-t-il de l'immuabilité divine ? Que reste-t-il de l'idée de sa perfection, de la plénitude d'être qui est la sienne et qu'il faut bien lui reconnaître ? S'il arrive du nouveau pour Dieu, alors il était incomplet, il y avait quelque chose d'imparfait en lui, il y avait un manque, Dieu peut s'enrichir, mais alors donc ce qui n'était pas, il n'était pas l'absolu, il n'était pas... S'il arrive du nouveau, alors il est surpris, donc d'où vient le nouveau ? Si ça vient de lui, il ne peut pas être surpris. Donc, ça peut venir d'une autre source, mais il nous a dit que tout vient de lui. Là aussi, ça paraît ruineux. Donc, des deux côtés où la pensée théologique semble pouvoir se diriger, c'est le gouffre qui semble s'ouvrir. Et c'est pour ça que je parle de dilemme. Dilemme ruineux. Peut-on y échapper ? J'avertis dès maintenant, en quelque sorte j'anticipe sur la conclusion, pour dire que on n'y échappe pas d'une façon triomphale, avec l'impression que il y avait juste un petit truc à comprendre, et puis on a réussi à le démonter, et là on est maître de la situation. Non, on n'y échappe pas de cette façon. La manière d'y échapper que je vais suggérer implique qu'on reconnaisse un mystère qui nous dépasse. Que notre intelligence, là, se sent comme un peu noyée par un excès de lumière, mais que nous ne réussissons pas à sonder. Ce sont des voies impénétrables du Seigneur en cette affaire. Et je l'avoue d'emblée, je n'ai pas donc une solution du type du mathématicien qui dit « c'est QFD », ou du prestidigitateur qui fait sortir le lapin de son chapeau juste au bon moment. Non, c'est pas ça. Mais je pense quand même qu'il nous est possible de faire du chemin sur des voies d'intelligence, de ces données bibliques en apparence difficiles à concilier, et qu'il y a deux ou trois avenues, là dans le canevas j'en ai vraiment indiqué deux, mais je mentionnerai quand même la troisième aussi, qui nous aident à penser... la coexistence de l'immutabilité divine, de la perfection divine, et d'une certaine réalité pour lui, de l'avant et de l'après, de la succession comme dans le temps. Il y a deux voies que je vous suggère, en avertissant aussi, que ce n'est pas le même avertissement que celui que je formulais il y a un instant, qu'il reste sans doute beaucoup de travail de réflexion, d'analyse, de synthèse à faire. J'indique des chemins, selon que je m'y suis engagé, mais je ne prétends pas que tout le travail est fait. Je ne prétends pas qu'alors maintenant, j'ai dit tout ce qu'un théologien peut dire. Pas du tout. Sans doute pourrait-on raffiner, pourrait-on chercher des instruments de pensée plus adéquats. Donc, là aussi, c'est un début, ce n'est pas... l'achèvement de la réflexion même sur le sujet. Alors la première avenue correspond à l'exploitation du privilège humain. Très grosso modo, tout le monde a reconnu une certaine correspondance entre la paire éternité-temps et la paire Dieu-création. En création visible, surtout. C'est la création visible qui est marquée par le temps, au sens habituel qu'on donne au terme, et l'éternité est prérogative divine. Or, la Bible nous suggère que la créature humaine a une situation particulière dans le grand schéma du rapport entre Dieu et sa création visible. L'homme n'est pas simplement une créature parmi les autres, il est la créature en image de Dieu. Il est image de Dieu unique dans le cosmos, et semble-t-il d'ailleurs, pour représenter tout le sens du cosmos dans son rapport à Dieu, faisant le lien en quelque sorte entre le reste du cosmos et le Créateur. Mais en tout cas, il y a ce privilège que met tellement bien en évidence le premier chapitre de la Genèse. Il y a ce lien particulier de l'humanité au Seigneur, et donc une place unique à certains égards médiatrice. Alors l'idée, du coup, c'est de chercher du côté de la place particulière de l'homme s'il n'y aurait pas quelques lumières pour le rapport temps-éternité. Doit-on dire l'homme est créature temporelle comme toutes les autres, comme les poissons, les petites fleurs, les chiens, les chats, Dieu étant éternel, n'y a-t-il pas quelque chose de particulier à l'homme quant à la dualité du temps et de l'éternité qui nous permettra de mieux concevoir cette dualité temps-éternité? En fait, c'est une idée que pas mal de théologiens ont eue, et l'affirmation que l'homme n'est pas seulement temporel, qu'il a un certain rapport à l'éternité, une certaine participation à l'éternité, est une idée que l'on trouve chez pas mal d'auteurs chrétiens. Le théologien, qui n'est pas un théologien évangélique, mais il a dit des choses fort intéressantes, sur lequel d'ailleurs Hubert Moulinot a fait sa thèse de doctorat, Jürgen Moltmann, théologien contemporain, dit dans son livre La théologie de l'espérance que l'homme est comme un nageur dans le fleuve du temps, et que comme un nageur, il est dans l'eau, mais la tête hors de l'eau. Que la tête de l'homme s'élève au-dessus du temps, comme la tête du nageur au-dessus de l'eau du fleuve, et de façon à ce qu'il puisse se repérer, et de façon à ce qu'il puisse avoir un but, un avenir, alors qu'il nage soit dans le courant ou à contre-courant, précise Jürgen Moltmann. Et cela correspond, c'est une image, mais cela correspond à cette idée d'une accession unique de l'homme parmi toutes les créatures terrestres à la dimension de l'éternité qui lui permet de s'élever au-dessus du temps. Même Thomas d'Aquin, je pense que c'est extrêmement intéressant dans la mesure où il est un représentant rigoureux et prudent de la position classique, affirme que la capacité de libre arbitre, de délibération, de décision de l'homme est intemporelle, ou plus exactement supra-temporelle. C'est dans une autre partie de sa somme théologique, ce n'est pas celle que j'ai déjà citée, c'est dans la Prima Secundae, dans le deuxième grand volume, si vous voulez, et la première partie, dans la question 113, article 7, il affirme que l'esprit humain, il utilise le mot mens en latin, donc est en soi supra tempus, au-dessus du temps. Et si l'esprit humain fonctionne temporellement, c'est par accident, dit-il, parce que ces représentations, etc., sont empruntées au terrestre visible qui est de caractère temporel. Mais il attribue, Thomas d'Aquin lui-même, un caractère supratemporel, ce qui, je pense, est assez étonnant et mérite d'être relevé. Donc, il y a des auteurs, et même assez anciennement, qui ont affirmé ce caractère supratemporel de l'être humain. Peut-on accepter cette pensée? A-t-elle un soutien biblique? Il me semble que nous pouvons répondre oui sur la base du chapitre de l'Ecclésiaste. Nous avons dans ce chapitre la formulation très frappante du verset 11, « Il a mis l'éternité dans leur cœur ». C'est la traduction littérale. Si on traduit « éternité », le mot olam, dont nous avons déjà fait le commentaire hier. La vieille traduction seconde, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, n'est pas entièrement répréhensible dans la mesure où le cœur est l'organe de la pensée. Et donc on peut dire que mettre dans le cœur, ça peut vouloir dire mettre la pensée de. Mais il faut quand même noter que ce n'est pas la traduction littérale. Que de manière strictement littérale, c'est il a mis l'éternité, ou olam, disons. Ah, olam, oui monsieur.
Je laissais prendre, c'est A, B ou C, parce qu'il y a la croix ici.
Donc au verset 11, c'est la deuxième partie. Vous avez donc, il a d'abord fait tout beau en son temps. Le tout, il l'a fait beau en son temps, et aussi, gam, ou le mot peut avoir une simple valeur emphatique. Et oui, il a donné, mais le verbe donner est très souvent employé avec le sens de mettre, hein, il a un sens plus large que donner en français, le olam dans leur cœur. Alors, la pensée de l'éternité, donc, c'est déjà une sorte de paraphrase. Je n'accuse pas Monsieur Louis Segond d'avoir tordu le sens dans la mesure où il a voulu faire ressortir que le cœur est l'organe de la pensée. Mais il me semble quand même que le verset signifie plus que simplement il a mis la pensée d'éternité, il pense à l'éternité, qu'il signifie qu'il y a une participation à l'éternité, que l'homme n'est pas seulement temporel, mais qu'il accède à une dimension autre que le temporel, qui est évoqué par le terme olam. Alors il y a, parmi les exégètes, parmi les spécialistes, trois autres propositions à propos de cette formule, et il faut que je les signale. Mais je pense qu'aucune des trois n'est vraiment satisfaisante, la troisième se rapprochant d'ailleurs beaucoup de celle que je retiens. La première, c'est de changer le texte. L'affirmation est frappante, et du coup, certains disent, oh, il doit y avoir une faute dans les manuscrits. Donc, vous avez un certain nombre d'exégètes qui font de la critique textuelle et qui croient pouvoir changer ce mot « olam » en un autre mot ici. Mais dans la mesure où on peut bien comprendre avec le texte tel qu'il est, la sobriété en matière de critique textuelle, c'est de garder le texte tel qu'il est. Enfin, je signale que c'est la stratégie que certains ont adoptée et que je laisse de côté. La deuxième consiste à traduire le monde pour olam. Chez les rabbins, il est bien attesté que le mot olam peut prendre ce sens de monde. Il ne perd pas ce sens d'éternité aussi, mais assez souvent il peut signifier le monde. Cela se retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament avec le mot aion, dont je vous ai dit que c'est en grec un équivalent assez proche de olam. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, en fait, c'est le mot aion. C'est jusqu'à la fin du siècle, de l'âge. Mais on a traduit monde très, très couramment, et ça paraît légitime dans ce passage. Donc, certains veulent ici traduire monde, et parfois, le sens n'est pas encore tout à fait déterminé quand on a choisi de rendre ainsi olam, parfois l'idée c'est que l'esprit de l'homme est rempli par les préoccupations du monde, il n'a en vue que le visible, et du coup il ne voit pas la beauté des choses que Dieu fait en leur temps, et l'œuvre que le Seigneur fait dans toute l'histoire, vous voyez. Donc ce serait plutôt l'idée d'un aveuglement, parce que le monde lui remplit le cœur. Si on traduisait monde. Alors mon objection à cette interprétation, c'est que le sens de monde semble plus tardif que la rédaction de l'Ecclésiaste, même si on date l'Ecclésiaste bas, parmi les derniers livres de l'Ancien Testament à avoir été écrit. Chez les évangéliques, vous avez deux positions, celle qui croit que Salomon en a été effectivement l'auteur, alors à ce moment-là, on date très haut. Mais c'est une position qui n'est pas défendue par tous les évangéliques, et même les plus stricts et orthodoxes, et je pense qu'elle se défend assez difficilement. Donc l'autre position, c'est que c'est un livre écrit relativement tard, après l'exil, vers la fin de la période de rédaction de l'Ancien Testament. Mais même si on date bas,
Je pense qu'on peut dire que le sens de monde pour Olam n'a pas été attesté à ce moment-là, qu'il est plus tardif. Et si on prend l'Ancien Testament, pratiquement, on n'a pas ce sens pour Olam. Donc, traduire monde, c'est faire un anachronisme. Et donc, je ne pense pas que ce sens puisse être retenu, soit satisfaisant ici. D'autant plus, c'est l'objection qu'on peut aussi faire, qu'il est employé quelques versets plus loin, au verset 14, comme j'ai lu jusqu'au verset 15 pour que vous en rendiez bien compte, avec son sens d'éternité. Ce que Dieu fait tient à toujours le Olam. Donc dans le même morceau, non.
C'est vrai que moi j'ai une version sonore en réalisant, donc eux parlent bien d'éternité, mais pourtant j'ai inventé au très fond de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a ce « et pourtant » qui a traduit le « et pourtant » et il est un peu dérangeant parce qu'il semble quand même effectivement lier effectivement les deux parties de ce verset.
Alors, je
pense que oui. « Et pourtant », il ne reconnaît pas la parole de Dieu. Mm-hmm.
Alors, il faut reconnaître que les mots employés dans l'original, je vais vous en donner une traduction encore plus littérale que ce que j'ai fait, ne sont pas très faciles à traduire. La traduction « et pourtant » est possible. Celle que j'ai donnée tout à l'heure, « bien que » est adoptée par d'autres, est possible aussi. Littéralement, nous avons l'association de la proposition « de » hors « de » et de la négation. Mi, hors de, cela veut dire donc que ça ne peut pas, mais beli, la négation. Alors ça semble vouloir dire, mais sans que ce qui va suivre puisse se réaliser. Mais ensuite il semble y avoir comme une double négation qui ne vaut pas une affirmation. Ensuite vous avez le relatif, donc hors de ne pas, que l'homme ne trouve pas. Alors là, vous avez une formulation d'un type habituel. Une nouvelle négation, l'homme ne trouve pas. Alors, chacun des traducteurs doit se débrouiller comme il peut. Et moi, il me semble que la façon la plus adéquate de lire, c'est de voir l'affirmation, il a mis l'éternité dans leur cœur, et puis ensuite, une limitation à ce que cela implique. Bien que à l'exclusion de ce qu'on pourrait imaginer, en fait, l'homme ne peut pas trouver. Voilà comment je lis cet ensemble. Mais c'est une formulation qui n'est pas habituelle en hébreu, pas du tout. C'est un petit peu bizarre, heurté, et ça explique pourquoi vous avez des traductions diverses. Vous avez celle de la Sommeur. Puisque j'ai ici la Tob, je vais vous dire ce que la Tob a choisi. Oui. Pour ces mots précisément, parce qu'elle n'a pas choisi l'éternité. Il fait toute chose belle en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée. Il choisit le sens de la durée. En fait, c'est la troisième interprétation. À leur cœur, il donne le sens de la durée sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Et puis il y a une note en plus qui vous montre bien la difficulté. On peut traduire aussi sans quoi l'homme ne pourrait découvrir. Sans quoi l'homme ne pourrait découvrir l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. À cause de ce caractère un peu bizarre, inhabituel de la combinaison de la préposition hors de, min, de la négation, et puis ensuite d'une clause relative que ma chère, l'homme ne trouve pas. Oui, alors à ce moment-là, ça voudrait dire juste le contraire. Ouais. Donc, je me range derrière le choix de certains, c'est pas juste le mien, en traduisant « bien que l'homme ne puisse pas », à l'exclusion de ce fait, l'homme ne peut pas. Mais la formulation en hébreu est inhabituelle, Et du coup, ça vous explique la manière dont le Sommeur a traduit. Alors, la troisième interprétation dont je voulais parler pour l'écarter, c'est la traduction de Olam comme totalité du temps, comme l'âge, tout l'âge de l'existence du monde, en fait, plutôt que l'éternité. Et je crois que la Tob a choisi à peu près ça avec le sens de la durée. On est assez près. James Barr, dans le livre que j'ai signalé, Biblical Words on Time, choisit ce sens-là. Mais en fait, il donne au verset dans son ensemble à peu près le sens que je vous propose, et que je vais encore développer, avec le sens bien que, hein, pour la négation. Comme je l'ai expliqué, Barr choisirait cette possibilité-là. Étant donné que Olam a plus souvent le sens d'éternité que de totalité du temps, dans l'Ancien Testament, bien que le sens totalité du temps existe, étant donné qu'au verset 14, il est employé avec le sens d'éternité, je crois, c'est évidemment, je choisis de dire éternité, mais la différence n'est pas très très considérable. Car quelle est l'idée clé? Voilà maintenant le point principal pour notre réflexion. Quelle est l'idée clé de ce verset, et peut-être de tout le passage? C'est d'abord l'idée, me semble-t-il, que l'homme est comme plongé dans le temps d'une façon désarçonnante, que les temps se succèdent sans qu'il ait la maîtrise de la signification de leur arrangement. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, ça c'est peut-être la dualité dont l'homme est principalement victime, sous laquelle il doit peiner toute sa vie sans pouvoir dominer la chose. Mais ensuite, les occasions sont diverses, les actions qui conviennent ne sont pas les mêmes. Qui peut trouver le fil d'Ariane de cette affaire? Il y a sept fois deux septaines de paires antithétiques. Bien sûr, le chiffre est très intentionnel. 14 paires de choses qui s'opposent, et l'homme est ballotté de l'un à l'autre, il ne peut pas savoir. L'homme est donc jeté dans la perplexité par les alternances du temps. Mais pourtant, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il y a ce qui est caché à l'homme d'emblée, mais il y a quelque chose qui donne sens à cette diversité. Et Dieu fait son œuvre à travers ces activités, ces temps qui s'opposent. L'œuvre que Dieu fait, elle durera toujours, elle a une validité éternelle, et il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu réalise son œuvre par ses alternances de temps. Mais l'homme, alors, est-il simplement, comme un fétu de paille, ballotté par les vagues de ce temps? Et non, Dieu a mis dans son cœur l'éternité. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, il en souffre. C'est une préoccupation pour lui. On peut traduire au verset 10 le mot tâche aussi par préoccupation. S'il souffre de ne pas pouvoir maîtriser la diversité de ses temps, c'est que justement, il n'est pas seulement comme un fœtus le long du fleuve, comme un animal qui, selon la saison, fait sa mue, suit l'instinct et ne se pose jamais de questions, et ne souffre pas des alternances, des situations contraires. L'homme se pose la question, il voudrait maîtriser. Et en fait, s'il le veut, c'est qu'il le peut jusqu'à un certain point. Malgré tout, il discerne la convenance de certains temps. Il prévoit ce qui va arriver, et ça arrive comme il l'a prévu, disons 9 fois sur 10 pour le proche avenir. Il se rappelle le temps passé. Il n'aurait pas une telle conscience des choses s'il ne s'élevait pas au-dessus de la succession même. Il en fait une sorte de synthèse dans la conscience qu'il en prend, et s'il fait des projets, c'est qu'il en a de cette synthèse la capacité. Comment faire un projet sinon en s'élevant un peu au-dessus du flux des moments qui se suivent, en pouvant prendre des repères qui eux ne bougent pas, donc en anticipant sur l'avenir. Le projet comme caractéristique de la démarche humaine, et il forme ses projets dans son cœur, dans le langage biblique, marque que l'homme n'est pas seulement temporel, qu'il a une part à l'éternité. Seulement, ce n'est qu'une part. C'est une élévation au-dessus du fleuve du temps, mais non pas du tout la liberté souveraine, la maîtrise qui caractérise Dieu. L'homme, en s'élevant ainsi, peut reconstituer certaines séquences, trouver des éléments de sens dans la succession historique, mais il ne saisit pas toute l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi il demeure perplexe devant tant et tant de choses dans la succession des temps. Voilà, me semble-t-il, la signification de ce passage. L'homme a un privilège qui le distingue de tous les animaux, de tous les êtres de la création visible. Il est capable de prendre conscience du temps et donc de s'élever au-dessus du temps. Il a une part à l'éternité, mais il demeure une créature. Il demeure bien en dessous du Dieu éternel, et donc il n'acquiert pas la maîtrise de l'ensemble de cette succession. Il ne peut pas vraiment discerner toute l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Il me semble que c'est très cohérent et que ça correspond à l'enseignement du passage tout entier. Le verset 15 demeurant énigmatique, je ne m'engage pas dans la traduction exacte, j'ai parfois certaines questions, mais ce verset 15 est si difficile à traduire aussi. Mais ça correspond bien à l'ensemble de tonalité de ce passage. Et alors, qu'est-ce que cela peut impliquer pour notre réflexion sur le temps et l'éternité? Je suggère que si l'homme a part à l'éternité en faisant en quelque sorte la synthèse du temps par la mémoire, par le projet, alors nous avons peut-être dans son expérience privilégiée entre toutes les créatures, une fenêtre sur ce que peut être l'éternité par rapport au temps. Si l'éternité de l'homme, qui est une éternité créaturelle de rang inférieur en quelque sorte, consiste à faire une certaine synthèse dans la succession du temps sans abolir cette succession, je pense qu'on peut dire que l'éternité divine, qui est l'éternité alors absolue, consiste à faire la synthèse totale de toute la succession du temps sans l'abolir non plus. L'homme ne peut le faire qu'en petite partie. Il est d'abord temporel, et puis il est un peu éternel, et donc fait certaines synthèses de la succession temporelle. Dieu, lui, est absolument éternel, et donc il est le roi des siècles, souverain des âges, comme l'appelle la première à Timothée, et il domine totalement la succession, sans pour autant qu'elle soit niée, que l'on doive parler d'un pur présent.
Nous savons que l'homme sera éternel.
Alors, je pense que ce privilège d'éternité, au sens où je l'explique, en essayant de comprendre le passage de l'Ecclésiaste, implique cette durée à toujours en la présence de Dieu, ou loin de sa présence lorsqu'il s'agit du jugement, au-delà de la vie terrestre. Je pense que cela l'implique aussi. Mais ce qui m'intéresse pour essayer de voir quel est le rapport alors entre le temps et l'éternité, c'est que dans le fonctionnement de la vie humaine sur la Terre aujourd'hui, le privilège d'éternité se marque par cette capacité de synthèse, d'unification en quelque sorte, sans qu'elle, aplatissement et abolition, de la succession qui est caractéristique du temps, de l'avant et de l'après. Et je suggère donc que cela nous ouvre une fenêtre ou une avenue pour nous approcher du mystère du rapport entre l'éternité divine et le temps de la créature. L'éternité divine est au degré absolu, donc maîtrise parfaite, totale, ce que dans l'expérience humaine on trouve comme un reflet partiel. Alors, à partir de là, j'ai deux ou trois réflexions supplémentaires qui, je pense, permettent de voir l'intérêt de cette voie de recherche. Oui, mais...
Donc finalement, pour vous, quand même, Dieu s'inscrit dans le temps. Il est dans le temps.
Alors, il est capable d'intervenir dans le temps, en un sens, il est dans le temps, de toute façon, il habite sa création, où il a institué le temps. Ça fait partie de mes propositions, mais je le dis tout de suite. Je pense que l'on pourrait dire qu'il y a deux temps, le temps de la création et puis le temps de Dieu. Temps non... D'ailleurs, on reprendrait le langage de l'hébreu et du grec biblique, puisque ce sont les mêmes mots. Olam ou Aion peut désigner aussi du temps. Mais je pense plus commode de réserver le mot temps à ce qui est institué pour la créature et dire simplement que l'éternité de Dieu, la forme que prend de façon absolue, de telle sorte que rien ne surprend Dieu, qu'il n'y a pas de discontinuité, que c'est cela qui fait différer son éternité de la participation à l'éternité qui caractérise l'humain. Et alors, je réserverai le mot éternité, si vous voulez, à la forme de durée, au temps de Dieu, si on voulait le dire, et puis le mot temps à la forme que prend la durée pour la créature visible, en disant, et l'homme, parmi les créatures visibles, a ce privilège, tout en étant temporel, de participer aussi à l'éternité, de s'exaucer, H-A-U-2-S, de s'exaucer au-dessus de la succession temporelle, mais seulement de manière partielle. Voilà la proposition.
De manière partielle, c'est ce que mes invités, c'est ce qui me met devant la confusion. Et on dit que de manière partielle,
Et alors l'accent que je mets, et là c'est en opposition à Kuhlmann par exemple, hein, l'accent que je mets ce n'est pas sur l'extension indéfinie, ou même si vous voulez employer ce mot plus ronflant, infini, c'est la maîtrise de la succession. C'est le fait qu'il y a pure transparence, qu'il y a parfaite homogénéité des moments successifs, qu'ils sont unis. C'est à ce propos que je dis que c'est partiel pour l'homme. Et je pense que cela restera partiel dans la vie de la nouvelle création, dans le ciel pour nous et dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Cette participation à l'éternité, qui n'aura jamais de fin, sera cependant toujours celle d'une créature, et que nous n'aurons pas la maîtrise qui appartient à Dieu seul. Nous sommes à l'image de Dieu, nous ne sommes pas égaux à Dieu. Pas comme Dieu. C'est dans ce sens que je dis partiel.
Mais que pensez-vous à ce que Daniel disait? Et quand Daniel parlait de la 70 semaines,
oui, oui.
C'était prophétique.
Oui, oui, oui.
Et Daniel dit encore qu'on appelle temps des temps et la moitié.
Oui, oui. Je pense qu'on pourrait peut-être revenir à cette question cet après-midi, parce qu'il s'agira plus spécialement de la figure du temps. Je me concentre ce matin sur le rapport temps-éternité, ce qui correspond en fait principalement à la notion même de l'éternité. Comment concevoir l'éternité? Ma proposition revient en gros à dire, au lieu de concevoir l'éternité comme un pur présent par opposition à un temps qui est successif et qui est réservé à la créature, dire qu'en Dieu, il y a la pure maîtrise que ceux qui ont parlé de pur présent voulaient évoquer, Mais il y a aussi le successif, que l'éternité divine inclut les deux en parfaite union. Alors, comme je vais encore le souligner, comment cela se passe exactement, c'est un mystère. Je ne prétends pas le démonter, j'ai bien averti, mais je crois qu'on peut l'affirmer, et que le fait que la participation humaine à l'éternité implique une unification de ce qui se succède avant, après, sans l'abolir, peut nous aider à l'affirmer à propos de Dieu au degré absolu. Alors, j'ajoute maintenant les deux remarques que j'ai promises. J'ai encore le temps voulu. D'abord, il me semble extrêmement intéressant de relier la distinction de l'avant et de l'après précisément au projet, c'est-à-dire finalement à la capacité d'agir. Si Dieu maîtrise absolument la succession, cette succession ne lui est pas imposée par une loi supérieure. Avant Dieu, il n'y a pas d'avant et d'après. Il n'y a pas une sorte de loi de la succession. Donc d'où vient la distinction de l'avant et de l'après? La distinction successive. À partir de quoi peut-elle être posée? Je crois pouvoir répondre à partir de l'idée que Dieu est capable d'agir. Ce qui me semble très lié à la notion de Dieu vivant dans la présentation biblique. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui, par opposition aux idoles, qui ne peuvent rien, etc., est un Dieu qui agit. Or, qu'est-ce qu'agir? Être capable d'agir, sinon de faire une différence entre avant et après. Je ne réussis pas, j'essaye d'analyser intellectuellement la chose, je ne réussis pas à voir quel sens pourrait demeurer à la notion d'action, qu'est-ce qu'on pourrait appeler agir, si on n'acceptait pas une différence entre avant et après. Agir, c'est pouvoir concevoir un projet et le mettre à exécution, précisément ce qui nous est dit de Dieu, qui fait son projet, il le met à exécution. Et ça, alors, c'est premier. Dans le mystère divin, personne ne peut nier que ce pouvoir d'agir soit très vigoureusement affirmé, d'après la révélation biblique. Alors, je suggère que c'est à partir de là que se pose l'avant et l'après dans la vie divine. Dieu n'est pas mesuré par une mesure distincte de lui-même, mais il agit, et je pense qu'il agit déjà dans la communion trinitaire. Il agit, le Père, le Fils, l'Esprit se parlent, se donnent, et cela implique une distinction avant-après. C'est à partir de là que la notion de succession peut être vue comme intérieure à Dieu. Et je cite en marge, là je reconnais que c'est relativement discutable, mais je cite en marge une idée qui peut aller dans ce sens. Les systèmes verbales de conjugaison des verbes en hébreu, en grec, encore un petit peu en français, mais beaucoup moins en français, n'ont pas vraiment des temps, on dit les temps des verbes, mais il ne s'agit pas d'abord de marquer un moment sur une ligne chronologique, c'est l'aspect verbal qui est en cause d'abord dans la conjugaison. La conjugaison hébraïque en particulier est très très claire à ce propos. Vous avez deux grands aspects, l'accompli ou l'inaccompli. C'est comme ça que les grammairiens les emploient. C'est là la structure fondamentale de la conjugaison hébraïque. Accompli, inaccompli. On disait autrefois parfait ou imparfait. Soit l'action est considérée comme accomplie, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'avenir. On parle souvent du parfait prophétique. Le prophète parle à l'accompli, parce que c'est une chose sûre, il la voit toute faite, cette chose qui, pour lui, n'est pas encore faite, mais il la voit sous cet angle, et il utilise le parfait, ou accompli. Et puis vous avez l'inaccompli, pour ce qui est en train de se faire, ou qui va se faire, pour tout ce qui n'est pas réalisé. C'est la dualité accomplie-inaccomplie qui ensuite va servir à désigner, alors l'inaccompli sera le plus souvent le futur, assez plus rarement le passé, et inversement, mais vous avez, dans le système verbal, me semble-t-il, comme la suggestion que c'est à partir de la notion d'action que l'avant et l'après peuvent se distinguer. Ou bien c'est accompli, ou bien ce n'est pas accompli. Et si ce n'est pas accompli, alors ça sera... c'est encore devant nous, c'est encore... nous ne sommes pas après, comme quand c'est accompli. Ça, c'est ma première grande remarque. La deuxième grande remarque concerne alors le rapport temps à éternité. L'homme semble avoir part à l'éternité pour autant qu'il est capable de projet, qu'il est capable d'agir. Lui aussi fait une différence entre l'avant et l'après par le projet qu'il met en œuvre. Seulement, il est en cette affaire même, parce qu'il n'est qu'une créature finie, sous les contraintes du temps cosmique. Il dispose de ressources et en solidarité avec un fonctionnement qu'il n'a pas décidé. C'est l'aspect, me semble-t-il, de sa temporalité. Dieu est pure activité. Il n'est conditionné par rien d'autre. Tout vient de lui. Donc, il pose l'avant et l'après comme il lui plaît, et 1000 ans sont comme un jour comme 1000 ans à ce moment-là. Tout vient de lui. Il n'y a aucune mesure qui lui soit extérieure. Mais pour l'homme, l'homme est d'abord une créature qui est solidaire du cosmos, et Dieu imprime au cosmos, dans l'exécution d'ailleurs de son plan, un rythme, et l'homme est d'abord soumis à ce rythme. Il est temporel en tant qu'il est agi. Il est agi par la création, et en dernière analyse, la création est comme la main du créateur. Et au sein de cet être agi, de cette passivité donatrice qui caractérise son existence, il lui est donné d'agir aussi à son tour, dans ce cadre. Ce qui reste un pouvoir limité, mais authentique, en image de Dieu. Donc on peut au moins tendre vers cette espèce d'équation, l'éternité agir, et Dieu seul agit absolument, et il est absolument éternel, et la temporalité être agi. C'est un peu une formule, mais je vous la propose. Voilà donc ce que l'on trouve selon la première voie de recherche qui me semble intéressante. Et c'est là-dessus surtout que j'ai insisté, parce qu'il y a l'autorité biblique, il y a l'autorité du texte de l'Ecclésiaste derrière, puis je pense que le reste de la Bible, finalement, lu à cette lumière, se lit bien. Mais la deuxième... pardon.
Quand vous dites, ça c'est vous, ça, Dieu agit, et l'homme agit.
Oui.
Donc en fait, l'homme n'est pas passif. C'est un petit peu comme un...
Bon, la tournure agit suggère la passivité... ce n'est pas une formule du langage courant. Cette façon passive de prendre le verbe agir est assez rare, mais on la trouve chez les philosophes ou les intellectuels. C'est pour ça que je m'y suis risqué. Le fait d'être agi, c'est d'être l'objet d'une action. Être façonné par l'action d'un autre. Et donc je suggère que c'est cela ce qui correspond à la temporalité de l'existence humaine. Et donc ça a un aspect de passivité, mais le mot passivité pourrait être un peu trompeur, c'est pour ça que j'ai choisi la formule être agi. Il y a toute une réceptivité, c'est aussi tout le fonctionnement biologique de l'être humain qui est en cause. Il est façonné par un rythme, nous y reviendrons, qui n'a pas lui-même institué. Il est dans la dépendance. Mais, propre de l'homme, du sein de cette dépendance commune avec toutes les autres créatures visibles, il lui est donné d'agir à son tour, en image de Dieu. De faire un projet, de faire une marque. Il dépasse la simple inscription dans les rythmes naturels. Voilà ce qui caractérise l'être humain. Voilà. Telle est la suggestion que je fais. Alors la deuxième voie, c'est celle de l'analogie avec la Trinité. Le dilemme ruineux que je vous ai rappelé en début de séance, ce dilemme ruineux, en quelque sorte, on l'a eu aussi dans les premiers siècles de l'Église à propos de l'unité et de la Trinité du Dieu biblique. Les uns voulaient tellement affirmer l'unité de Dieu qu'ils venaient à nier qu'il y ait vraiment trois personnes, juste trois manifestations, trois rôles, ce qui faisait que seule l'unité de Dieu tenait vraiment comme une vérité éternelle. D'autres, au contraire, insistaient tellement sur la Trinité qu'on ne voyait plus comment il y a un seul Dieu. C'est une tentation de la théologie trinitaire contemporaine, d'ailleurs. Aujourd'hui, pas mal de gens glissent vers le trithéisme, une forme de polythéisme, plusieurs dieux. Dilemme ruineux des deux côtés. On ne peut pas sacrifier le monothéisme, on ne peut pas sacrifier la Trinité. Et il a fallu forger des instruments de pensée, ça a été laborieux, il y a eu des combats, jusqu'à ce qu'on réussisse à associer, en disant c'est un mystère, hein, on ne perce pas tout, mais à associer dans la pensée théologique l'unité et la Trinité. Ne pas abolir la Trinité, tout en disant que la Trinité est parfaitement une, avec une seule essence divine. Or, il est aussi classique de rapprocher le thème de l'éternité divine de celui de l'unité. C'est au nom de l'unité de l'être divin que souvent la conception traditionnelle a affirmé l'éternité de Dieu comme pur présent. Et c'est en association étroite avec le multiple que la temporalité successive a été conçue. Par exemple, chez Plotin, c'est très très clair. La temporalité est un glissement vers le multiple. Donc ma proposition, c'est de dire, puisque pour la Trinité, il y a des indications bibliques plus nombreuses, plus explicites, et que l'Église ancienne a fait le boulot, a fait le travail, suivons ce modèle. Essayons de concevoir une éternité divine qui inclut le successif comme l'unité divine inclut la Trinité. Nous avons une sorte de modèle guide, et nous pouvons suivre une voie relativement parallèle. Voilà la deuxième avenue, deuxième fenêtre, comme l'image que vous voudrez, qui me semble utilisable. Avec l'aveu que nous ne pouvons pas sonder tous ces mystères, ni celui de la Trinité, ni celui de la vie divine comme à la fois une et successive. Ayant dit cela, je pense qu'il faut que j'avertisse contre une tentation théologique qui pourrait se présenter, ce serait celle de croire que c'est un seul et même mystère. Non, si ces deux mystères sont jumeaux, de la triunité d'une part et de l'éternité incluant la succession d'autre part, ce ne sont pas des jumeaux homozygotes, ce sont de faux jumeaux, hein, comme on dit. Il faut être très, très clair là-dessus. La seule façon d'avoir une différenciation stricte, on pourrait dire absolue, dans l'être divin, c'est la trinité des personnes. Là, il y a une différence qu'on peut dire absolue. Le Père n'est absolument pas le Fils. Il n'y a aucune confusion possible. Le Fils n'est absolument pas le Père. Ils sont un seul Dieu, un seul être. Ils ont une seule essence qu'ils possèdent en commun, mais ils se distinguent absolument parce qu'ils se distinguent non pas par aucun trait de l'essence, là ils sont identiques, mais par le fait que l'un est le Père et l'autre le Fils, par leur relation, en tant que personne, en tant que relation subsistante, dit la théologie, en tant que centre de référence, acte d'exister, possédant la même essence. Ce n'est possible qu'avec cette notion de personne, telle que la théologie l'a forgée, et ça ne peut pas jouer pour les trois instances du passé, du présent, du futur. Il n'y a pas le même type de distinction. C'est plutôt la pensée des différenciations de chatoiement, de multiplicité, infiniment riche que les attributs divins déjà nous présentent, c'est plutôt cette multiplicité-là qu'il faut reconnaître à propos de la succession de l'avant et de l'après pour Dieu, me semble-t-il. Donc ne confondons pas les deux mystères. N'essayons pas non plus, je crois que c'est assez tentant, mais je pense que c'est très très dangereux. En tout cas, si on s'engage dans cette voie, soyons très prudents, de faire s'équivaloir trop directement l'un des trois termes du temps, de la succession, avec les trois personnes de la Trinité. Vous avez un théologien évangélique américain, qui est très peu connu d'ailleurs, mais j'ai lu son livre autrefois, Nathan Wood, qui a proposé le temps comme une analogie de la Trinité, en disant que nous avons une bonne analogie de la Trinité parce que le passé, le présent et le futur ne se confondent pas. Là, vous avez une distinction qui ne se confond pas. Mais pourtant, c'est un seul et même temps que ces trois dimensions constituent. Lorsque tout le temps sera écoulé, tout aura été futur, tout aura été présent, tout aura été passé. Et c'est le même temps. Et il y a un ordre, disait-il. Le Père correspond au futur, parce que pour lui, le temps coule du futur. Le Fils au présent et le Saint-Esprit au passé. Donc lui faisait une sorte d'équivalence, vraiment, avec les personnes de la Trinité. Je crois que c'est une analogie, toutes les analogies ont un peu de valeur et toutes ont leurs limites, qu'il est assez dangereux de faire des rapprochements de ce genre. Ou alors avec des périodes de l'histoire. Il y a un théologien, c'était un abbé en Sicile, qui est très célèbre au Moyen-Âge, et qui est assez populaire aujourd'hui, Joachim de Flore, qui a développé l'idée des trois âges de l'histoire, l'âge du Père, l'Ancien Testament, l'âge du Fils, le Nouveau Testament, et l'âge de l'Esprit, qui allait poindre avec lui, qui allait mettre fin au règne de l'institution et du dogme, qui sont solidaires du Fils, qui allait dépasser le Nouveau Testament, un âge de libre esprit. Ça a alimenté aussi des mouvements politiques, des mouvements de révolution sociale, avec l'idée que toutes les institutions autoritaires qui correspondent à la seigneurie du Fils allaient sauter, puisqu'on entrait dans l'âge de l'esprit. Ce schéma des trois âges est un schéma que je crois assez pernicieux, que nous devons dire bien au contraire que l'âge de l'esprit et l'âge du Fils simultanément, que c'est là la perspective biblique, le Fils est présent et agissant par son esprit, l'esprit est l'esprit du Fils. Et nous sommes, nous, dans l'ère du Nouveau Testament, ouverte par la première venue du Christ, dans l'âge de l'esprit. L'esprit œuvrant par la parole, par la vérité, étant l'esprit de vérité. Voilà le schéma biblique qui est complètement déformé, détruit par ce schéma de Joachim de Flore.
Est-ce que ça ne se trouve pas du schéma modaliste ?
Oui, je pense que le modalisme qui attribue donc aux trois personnes trois rôles, principalement, peut se rapprocher quelque peu. Mais là, c'est plutôt une dissociation des termes de la Trinité avec des conséquences donc pour la théologie et même la vie sociale considérable.
Est-ce que ça s'approche aussi alors de certaines sectes, donc je ne sais pas si c'est comme ici, comme le secte de William Branham qui a...
Oui, je pense qu'il y a pas mal de sectes qui se rapprochent, hein, et que toute idée, on raconte cela parfois chez des évangéliques, toute idée que les manifestations de l'esprit, comme donc notre deuxième partie du XXe siècle en a été marquée, constituerait un nouvel âge, marquerait une étape propre et distincte dans le plan de Dieu, sans que cela puisse ressortir clairement du Nouveau Testament, me semble aller un petit peu dans le sens du schéma de Joachim de Flore et doit, disons, exercer notre vigilance. Cette idée-là va contre, je crois, l'accent majeur du Nouveau Testament, l'Esprit est l'Esprit du Christ. Il applique l'œuvre du Christ avec la parole du Christ comme son épée, comme son arme, de telle sorte que il est également pervers d'effacer le rôle de l'Esprit dans le temps de la Nouvelle Alliance. On peut accuser effectivement le christianisme des grosses institutions autoritaires d'avoir étouffé l'Esprit, mais également pervers de faire ça que de déconnecter l'Esprit du Fils. Mais, vous le voyez, il est tentant, lorsque l'on a vu qu'il y a une certaine un rapprochement possible entre la triade du temps et la trinité des personnes divines, constituant un seul Dieu, il est tentant de faire de tels rapprochements, mais les fruits de ceux qui ont tenté de tels rapprochements me semblent avoir été des fruits assez vénéneux dans le cours de l'histoire chrétienne, donc j'avertis à l'encontre. Mais il reste un modèle positif qui, alors que nous avons toujours ne pas maîtriser le mystère, nous encourage à dire nous n'allons pas sacrifier l'importance de l'avant et de l'après pour Dieu même, même si nous reconnaissons qu'il maîtrise totalement cette succession, qu'il n'y a rien qui le surprenne, que tout vient de lui, que pour lui tout est transparent de toute éternité. Nous avons à le dire cela. Mais cela n'abolit pas pour autant, même si nous ne sommes pas capables de le comprendre entièrement, ça n'abolit pas la réalité de l'avant et de l'après pour lui, et donc le sérieux ultime à ses yeux de l'histoire humaine telle qu'elle se déroule. Voilà la proposition, oui, encore.
Dans 1 Jean 5, 20,
oui.
Donc, vous parlez ici donc qu'il se distingue, le Père et le Christ. Mm. L'interprétation de 1 Jean 5, 20, c'est le Dieu véritable. C'est littéralement ça qui est dit.
Oui. Ah oui.
Comment l'interpréter
oui. Je crois que c'est la même construction délibérément paradoxale qu'au début de l'évangile de Jean. Vraiment, cela manifeste une réflexion sur la Trinité. Bon, le mot Trinité n'est pas là, mais sur le fait qu'il y a un seul Dieu, et pourtant que deux qui se distinguent sont l'un et l'autre Dieu, le Dieu unique. Et au commencement était le Verbe était avec Dieu, auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ça pourrait paraître contradictoire. La formulation fait ressortir qu'il y a là un mystère distinct de Dieu, auprès de Dieu, et en même temps Dieu. Et la même chose à la fin de la première épître de Jean, le verset qui est cité, nous sommes dans le Dieu véritable et dans son Fils Jésus-Christ, celui-ci, c'est le démonstratif proche, koutos, qui doit renvoyer à Jésus-Christ grammaticalement, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Personne n'a jamais mis en doute dans le cercle où l'épître de Jean est écrite que le Père soit le Dieu véritable. Donc, si c'était le Père qui était visé, ça ne rimerait pas à grand chose qu'il souligne. Mais c'est ce paradoxe. Le Fils se distingue du Dieu véritable et il est lui-même le Dieu véritable. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. La clause de la vie éternelle ne fait que confirmer cette lecture qui s'impose, parce que tout le chapitre souligne que la vie éternelle est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc nous avons, je crois, comme dans Jean 1, 1, un énoncé qui montre que Jean a réfléchi. Et oui, il faut dire à la fois que le Fils se distingue du Dieu véritable et qu'il est le Dieu véritable. Ce qui correspond donc à ce mystère d'une unité qui n'abolit pas la distinction des personnes, la multiplicité donc en Dieu, les deux étant maintenus ensemble. Oui.
Juste pour appuyer, s'il y aura lui-même, que celui qui a un
Père et le Père, il parle de son Père. Oui, se distingue aussi de. Il se distingue du Père et en même temps. Il y a une identité entre le Père et lui.
Par contre, pensez-vous que dans le temps, l'Esprit de Dieu, en fait, affine origine de notre connaissance de Dieu.
Mmh. Oui. Ah oui.
Mais parce qu'au début du siècle, il y a des dans les siècles, il y a eu quand même des sensibilités qui sont ressorties, comme au début du siècle, dans la communion de l'Église à la connaissance religieuse, il y a eu des sensibilités, soit au niveau de la repentance, soit au niveau de l'esprit. Est-ce qu'il y a effectivement l'esprit à fin, en fait, la connaissance de l'Église?
Alors, on pourrait de nouveau revenir à cette question cet après-midi. Je ne sais pas si y aura le temps. Je n'ai pas spécialement prévu de parler de cela. Je crois qu'on peut admettre, et même que c'est vraiment une chose très bonne, l'idée d'un progrès constant tout au long de la dispensation de la Nouvelle Alliance, de l'Église considérée comme un seul être vivant. Nous sommes solidaires les uns des autres, des générations passées aussi bien, et l'esprit conduit dans toute la vérité, de manière progressive, fait prendre conscience successivement, dans ce temps de l'histoire, des vérités qui sont en l'écriture, mais que notre pauvre humanité même croyante a du mal à saisir d'emblée, fait prendre conscience progressivement de mieux en mieux. Et dans les premiers siècles, ça a été les vérités de la Trinité et des deux natures de Jésus-Christ, mais pour le salut, ça a été très mal compris, c'est à la réforme que cela est apparu, puis d'autres progrès ont été faits, et jusqu'à nous, et il y en a sans doute encore, jusqu'au moment du retour du Seigneur. Dans ce sens, je crois que de même qu'on a dit que l'humanité est un seul homme qui apprend, l'Église est un seul chrétien qui apprend, à travers les siècles. Et c'est la mission de l'esprit. Bon, l'heure est arrivée, donc il faut la petite pause avant le repas. Donc, nous reprenons à 14h30 pour notre dernière séance.